Ainsi donc, dans les preuves qu'il devait donner de Dieu et de la religion chrétienne, il ne voulait rien dire qui ne fût à la portée de tous ceux pour lesquels elles étaient destinées et où l'homme ne se trouva intéressé de prendre part, ou en sentant en lui-même toutes les choses qu'on lui avait fait remarquer, soit bonnes ou mauvaises, ou en voyant clairement qu'il ne pouvait prendre un meilleur parti, ni plus raisonnable que de croire qu'il y a un Dieu dont nous pouvons jouir, et un médiateur qui, étant venu pour nous en mériter la grâce, commence à nous rendre heureux dès cette vie par les vertus qu'il nous inspire beaucoup plus qu'on ne le saurait être par tout ce que le monde nous promet et nous donne assurance que nous le serons parfaitement dans le ciel si nous le méritons par les voies qu'il nous a présentées et dont il nous a donné lui-même l'exemple. Mais quoiqu'il fût persuadé de tout ce qu'il avait ainsi à dire sur la religion aurait été très clair et très convaincant, il ne croyait pourtant qu'il le dût être à ceux qui étaient dans l'indifférence et qui, ne trouvant pas en eux-mêmes des lumières qui les persuadassent, négligeaient d'en chercher ailleurs et surtout dans l'Église, où elles éclatent avec plus d'abondance. Car il établissait ces deux vérités comme certaines, que Dieu a mis des marques sensibles particulièrement dans l'Église pour se faire connaître à ceux qui le cherchent sincèrement, qui les a couvertes néanmoins de telle sorte qu'il ne sera aperçu que de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est pourquoi, quand il avait à conférer avec quelque athée, il ne commençait jamais par la dispute ni par établir les principes qu'il avait à dire, mais il voulait connaître auparavant s'ils cherchaient la vérité de tout leur cœur, et il agissait suivant cela avec eux, ou pour les aider à trouver la lumière qu'ils n'avaient pas, s'ils la cherchaient sincèrement, ou pour les disposer à la chercher et à en faire leur plus sérieuse occupation, avant que de les instruire, s'ils voulaient que son instruction leur fût utile. Ce furent ces infirmités qui l'empêchèrent de travailler davantage à son dessein. Il avait environ 34 ans quand il commença de s'y appliquer. Il employa un an entier à s'y préparer. En la manière que ses autres occupations lui permettaient, qui était de recueillir les différentes pensées qui lui venaient là-dessus, et à la fin de l'année, c'est-à-dire la 35e qui était la 5e de sa retraite, il retomba dans ses incommodités d'une manière si accablante qu'il ne put plus rien faire les 4 années qu'il vécut encore, si l'on peut appeler vivre la langueur si pitoyable dans laquelle il les passa. On ne peut penser à cet ouvrage sans une affliction très sensible de voir que la plus belle chose et la plus utile peut-être dans le siècle où nous sommes n'ait pas été achevée. Je n'oserais dire que nous n'en étions pas dignes. Quoi qu'il en soit, Dieu a voulu faire voir, par l'échantillon pour ainsi dire, de quoi mon frère était capable, par la grandeur de l'esprit et des talents qu'il lui avait donnés. Et si cet ouvrage pouvait être accompli par un autre, je croirais qu'un si grand bien ne peut être obtenu que par beaucoup de prières nouvelles. Ce renouvellement des maux de mon frère commença par le mal de dents qui lui ôta absolument le sommeil. Mais quel moyen a un esprit comme le sien d'être éveillé et de ne penser à rien? C'est pourquoi dans les insomnies mêmes, qui sont d'ailleurs si fréquentes et si fatigantes, il lui vint une nuit dans l'esprit quelques pensées sur la roulette. La première fut suivie d'une seconde, et la seconde d'une troisième, et enfin d'une multitude de pensées qui se succédèrent les unes aux autres. Elles lui découvrirent, comme malgré lui, la démonstration de la roulette dont il fut lui-même surpris. Mais comme il y avait longtemps qu'il avait renoncé à toutes ces choses, il ne pensa pas seulement à rien écrire. Néanmoins, en ayant parlé à une personne à qui il devait toutes sortes de déférences, et par respect à son mérite et par reconnaissance de l'affection dont il était honoré, cette personne forma sur cette invention un dessein qui ne regardait que la gloire de Dieu et engagea mon frère à écrire tout ce qui lui était venu dans l'esprit et à le faire imprimer. Il est incroyable avec quelle précipitation il mit cela sur le papier, car il ne faisait qu'écrire tant que sa main pouvait aller, et il l'eut fait en très peu de jours. Il n'en tirait point de copie, mais il donnait les feuilles à mesure qu'il les faisait. On imprimait aussi une autre chose de lui, qu'il donnait de même à mesure qu'il la composait, et ainsi il fournissait aux imprimeurs deux différentes choses. Ce n'était pas trop pour son esprit. Mais son corps n'y put résister, car ce fut le dernier accablement qui acheva de ruiner entièrement sa santé et qui le réduisit dans cet état si affligeant que nous avons dit de ne pouvoir avaler. Mais si ses infirmités le rendirent incapable de servir les autres, elles ne furent pas inutiles pour lui-même, car il les souffrait avec tant de patience qu'il y a sujet de croire et de se consoler par cette pensée que Dieu a voulu par là le rendre tel qu'il le voulait pour paraître devant lui. En effet, il ne pensa plus qu'à cela, et ayant toujours devant les yeux les deux maximes qu'il s'était proposées, de renoncer à tous les plaisirs et à toutes les superfluités, il les pratiqua encore avec plus de ferveur, comme s'il eût été pressé par le poids de la charité qui sentait qu'il s'approchait du centre où il devait jouir du repos éternel. Mais on ne peut mieux connaître les dispositions particulières dans lesquelles il souffrait toutes ces nouvelles incommodités des 4 années de sa vie que par cette prière admirable que nous avons apprise de lui et qu'il fit en ce temps-là pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Car on ne peut douter qu'il avait dans le cœur toutes ces choses puisqu'elles étaient dans son esprit et qu'il ne les a écrites ainsi que parce qu'il les a pratiquées. Nous pouvons même assurer que nous en avons été témoins et que si personne n'a jamais mieux écrit sur le bon usage des maladies, personne ne l'a jamais pratiqué avec plus d'édification de tous ceux qui le voyaient. Il avait quelques années auparavant écrit une lettre sur la mort de mon père, en laquelle on voit qu'il comprenait qu'un chrétien doit regarder cette vie comme un sacrifice et que les accidents différents qui nous surviennent ne doivent faire impression sur nous qu'à proportion qu'ils interrompent ou accomplissent ce sacrifice. C'est pourquoi l'état mourant où il fut réduit pendant les dernières années de sa vie était un moyen pour l'accomplissement de son sacrifice qui se devait faire par la mort. Il regardait cet état de langueur avec joie et nous voyons tous les jours qu'il en bénissait Dieu de toute l'étendue de sa reconnaissance. Quand il nous parlait de la mort, qu'il croyait être plus proche qu'elle ne fut en effet dans la suite, il nous parlait toujours en même temps de Jésus-Christ, et il nous disait que la mort est horrible sans Jésus-Christ, mais qu'en Jésus-Christ elle est aimable, sainte et la joie du fidèle, et qu'à la vérité, si nous étions innocents, l'horreur de la mort serait raisonnable, parce qu'il est contre l'ordre de la nature que l'innocent soit puni. Qu'il serait juste de la haïr pour lors quand elle pourrait séparer une âme sainte d'un corps saint. Mais qu'il était juste à présent de l'aimer parce qu'elle séparait une âme sainte d'un corps impur. Qu'il aurait été juste de la haïr si elle rompait la paix avec l'âme et le corps, mais non pas à cette heure qu'elle en calme la dissension irréconciliable, qu'elle ôte au corps la liberté malheureuse de pécher, qu'elle met l'âme dans la nécessité bienheureuse de ne pouvoir que louer Dieu et être avec lui dans une union éternelle. Qu'il ne fallait pourtant pas condamner l'amour que la nature nous a donné pour la vie, puisque nous l'avons reçu de Dieu même. Qu'il fallait employer pour la même vie, pour laquelle Dieu nous l'avait donnée, qui est une vie innocente et bienheureuse, et non pas à un objet contraire. Que Jésus-Christ avait aimé sa vie puisqu'elle était innocente, qu'il avait appréhendé la mort parce qu'elle arrivait en lui à un corps agréable à Dieu, mais que, n'en étant pas de même de notre vie qui est une vie de péché, nous devions nous porter à haïr une vie qui était contraire à celle de Jésus-Christ, à aimer et à ne pas craindre une mort qui, en finissant en nous une vie ainsi de péché et pleine de misère, nous met dans la liberté d'aller avec Jésus-Christ voir Dieu face à face et l'adorer, bénir et aimer éternellement sans réserve. C'était sur ces mêmes principes qu'il avait tant d'amour pour la pénitence, car il disait qu'il fallait punir un corps pécheur, et le punir sans réserve par une pénitence continuelle, parce que sans cela il était rebelle à l'esprit et contredisant tous les sentiments du salut. Mais, comme nous n'avons pas ce courage de nous punir nous-mêmes, nous devions nous estimer bien obligés à Dieu quand il lui plaisait de le faire. C'est pourquoi il le bénissait sans cesse des souffrances qu'il lui avait envoyées, qu'il regardait comme un feu qui brûlait petit à petit ses péchés par un sacrifice quotidien et se préparait ainsi en attendant qu'il plût à Dieu de lui envoyer la mort qui consomma le parfait sacrifice. Il n'a jamais refusé l'aumône à personne, quoiqu'il eût peu de biens et que la dépense qu'il était obligé de faire à cause de ses infirmités excéda son revenu. Il ne la fit jamais que de son nécessaire. Mais lorsqu'on voulait le lui représenter, particulièrement lorsqu'il faisait quelques aumônes considérables, il en avait de la peine et nous disait « J'ai remarqué que quelque pauvre que l'on soit, on laisse toujours quelque chose en mourant. Il a été quelquefois si avant qu'il a été réduit de s'obliger pour vivre et de prendre de l'argent à rente pour avoir donné aux pauvres tout ce qu'il avait et ne voulut point après cela recourir à ses amis parce qu'il avait pour maxime de ne le trouver jamais importuné des besoins de personne, mais d'appréhender toujours d'importuner les autres des siens. Dès que l'affaire des carrosses fut établie, il me dit qu'il voulait demander 1000 livres par avance pour sa part, pour envoyer aux pauvres de Blois et des environs, qui étaient pour lors dans une très grande nécessité. Et comme je lui disais que l'affaire n'était pas encore assurée et qu'il fallait attendre une autre année, il me répondit qu'il ne voyait pas un grand inconvénient à cela, parce que si ceux avec qui il traiterait perdaient, il le leur donnerait de son bien, et qu'il n'avait garde d'attendre à une autre année parce que les besoins étaient trop pressants. Néanmoins, comme les choses ne se font pas du jour au lendemain, les pauvres de Blois furent secourus d'ailleurs, et mon frère n'y eut que la part de sa bonne volonté, qui nous fait voir la vérité de ce qu'il nous avait dit tant de fois, qu'il ne souhaitait avoir du bien que pour en assister les pauvres, puisqu'en même temps qu'il pensait qu'il pourrait en avoir, il commençait à le distribuer par avance et avant même qu'il en fût assuré. Il ne faut pas s'étonner si celui qui connaissait si bien Jésus-Christ aimait tant les pauvres, et que le disciple donna jusqu'à son nécessaire, puisqu'il avait dans le cœur l'exemple de son maître qui s'était donné lui-même. Mais la maxime qu'il s'était proposée, de renoncer à toute chose de superfluité, était en lui un grand fondement de l'amour qu'il avait pour la pauvreté. Car une des choses sur quoi il s'examinait le plus dans la vue de cette maxime était sur cet excès général de vouloir exceller en tout et qui nous portait en particulier, dans l'usage des choses du monde, à en vouloir toujours avoir de meilleures, des plus belles et des plus commodes. C'est pourquoi il ne pouvait souffrir qu'on voulût se servir des meilleurs ouvriers, mais il nous disait qu'il fallait toujours chercher les plus pauvres et les plus gens de bien et renoncer à cette excellence qui n'est jamais nécessaire et blâmer fort aussi qu'on cherchât avec tant de soin d'avoir toutes ces commodités comme d'avoir toute chose près de soi, une chambre où rien ne manquât et autre chose de cette sorte que l'on fait sans scrupule. Parce que, se réglant sur le fondement de l'esprit de pauvreté, qui doit être dans tous les chrétiens, il croyait que tout ce qui était opposé, quand même il serait autorisé par l'usage de la bienséance du monde, était toujours un excès, à cause que nous y avons renoncé dans le baptême. Il s'écriait quelquefois « Si j'avais le cœur aussi pauvre que l'esprit, je serais bien heureux, car je suis merveilleusement persuadé de l'esprit de pauvreté et que la pratique de cette vertu est un grand moyen pour faire son salut. » Tous ces discours nous faisaient rentrer en nous-mêmes, et quelquefois aussi, ils nous portaient à chercher des règlements généraux qui pourvussent à toutes les nécessités, et nous lui en faisions la proposition. Mais il ne trouvait pas cela bien, et il nous disait que nous n'étions pas appelés au général, mais au particulier, et qu'il croyait que la manière de servir les pauvres la plus agréable à Dieu était de servir les pauvres pauvrement, c'est-à-dire selon son pouvoir, sans se remplir de ces grands desseins qui tiennent de cette excellence dont il blâme la recherche en toute chose, aussi bien l'esprit et la pratique. Ce n'est pas parce qu'il trouva mauvais l'établissement des hôpitaux généraux, mais il disait que ces grandes entreprises étaient réservées à de certaines personnes que Dieu y destinait et qu'il y conduisait quasi invisiblement. Mais que ce n'était pas la vocation commune de tout le monde, comme l'assistance particulière et journalière de ces pauvres. Il eût bien voulu que je me fusse consacré à leur rendre un service ordinaire, que je m'imposasse comme en punition de ma vie. Il m'exhortait avec grand soin et à y porter mes enfants, et quand je lui disais que je craignais que cela ne me détournât du sein de ma famille, il me répondit que ce n'était que faute de bonne volonté, et comme il y a divers degrés dans l'exercice de cette vertu, on peut bien trouver du temps pour la pratiquer et ne point nuire à ses occupations domestiques, que la charité elle-même en donne l'esprit et il n'y a qu'à le suivre. Il disait qu'il ne fallait point de marque particulière pour savoir si l'on y était appelé, que c'était la vocation générale de tous les chrétiens, puisque c'était sur cela que Jésus-Christ jugerait le monde, que c'était assez que les besoins fussent communs pour nous employer à y satisfaire selon tous les moyens qui sont en notre pouvoir et que, lorsqu'on voyait dans l'Évangile que la seule omission de ce devoir était la cause de la damnation éternelle, cette pensée seule devait être capable de nous porter à nous dépouiller de tout et à nous donner 100 fois nous-mêmes si nous en avions de la foi. Il disait encore souvent que la fréquentation des pauvres était extrêmement utile parce que, voyant continuellement la misère dont ils sont accablés et que souvent même ils manquent des choses les plus nécessaires, il faudrait être bien dur pour ne pas se priver volontairement des commodités inutiles et des ajustements superflus. Voilà une partie des instructions qu'il nous donnait pour nous porter à l'amour de la pauvreté qui tenait une si grande place dans son cœur. Sa pureté n'était pas moindre, car il avait un si grand respect pour cette vertu qu'il était continuellement en garde pour empêcher qu'elle ne fût blessée le moins du monde, soit dans lui, soit dans les autres. Il n'est pas croyable combien il était exact sur ce point. J'en étais même embarrassé dans les commencements, car il trouvait à dire presque à tous les discours qu'on faisait dans le monde et qu'on croyait les plus innocents. Si je disais par exemple par occasion que j'avais vu une belle femme, il m'en reprenait et me disait qu'il ne fallait jamais tenir ses discours devant les laquais et de jeunes gens parce que je ne savais pas quelle pensée cela pouvait exciter en eux. Je n'oserais dire qu'il ne pouvait même souffrir les caresses que je recevais de mes enfants. Il prétendait que cela ne pouvait que leur nuire, qu'on leur pouvait témoigner de la tendresse en 1000 autres manières. J'eus plus de peine à me rendre à ce dernier avis, mais je trouvai dans la suite qu'il avait autant de raison sur cela que sur le reste, et je connus par expérience que je faisais bien de m'y soumettre. Tout cela se passait dans le domestique, mais, environ 3 mois avant sa mort, Dieu voulut lui donner une occasion au dehors de faire paraître le zèle qu'il lui avait donné pour la pureté. Car, comme il revenait un jour de Saint-Sulpice, où il avait entendu la Sainte Messe, il vint à lui une fille, âgée d'environ 15 ans, qui lui demanda l'aumône. Incontinent, il pensa au danger où elle était exposée, et ayant su d'elle qu'elle était de la campagne, que son père était mort, que ce jour-là même sa mère avait été portée à l'Hôtel-Dieu, en sorte que cette pauvre fille demeurait seule et ne savait que devenir, il crut que Dieu la lui avait envoyée, et alors même il la mena au séminaire, où il la confia aux soins d'un bon prêtre, à qui il donna de l'argent et le pria de chercher quelques conditions où elle fût en sûreté. Et pour le soulager de ce soin, il lui dit qu'il lui enverrait dès le lendemain une femme qui achèterait des habits à cette fille et tout ce qui serait nécessaire pour la mettre en condition. En effet, il lui envoya une femme qui travailla si bien avec ce bon prêtre que peu de temps après, ils la mirent dans une honnête condition. Cet ecclésiastique ne savait pas le nom de mon frère et ne pensait pas d'abord à le demander parce qu'il était occupé du soin de cette fille. Mais, comme elle fut placée, il fit réflexion sur cette action qu'il trouva si belle qu'il voulut avoir le nom de celui qui l'avait faite. Il s'en informa de cette femme, mais elle lui dit qu'on lui avait enjoint de le lui cacher. « Obtenez-en, lui disait-il, la permission, je vous en supplie, je vous promets que je ne parlerai jamais de toute sa vie. Mais si Dieu permettait qu'il mourût avant moi, j'aurai une grande consolation à publier cette action, car je la trouve si belle et si digne d'être sue que je ne saurais souffrir qu'elle demeure dans l'oubli. » Mais il n'obtint rien, et ainsi il vit que cette personne, qui voulait être cachée, n'était pas moins modeste que charitable et que si elle avait du zèle pour conserver la pureté dans les autres, elle n'en avait pas moins de conserver l'humilité en elle-même. Il avait une extrême tendresse pour ses amis et pour ceux qu'il croyait être à Dieu. Et l'on peut dire que si jamais personne n'a été plus digne d'être aimé, personne n'a jamais mieux su aimer et ne l'a jamais mieux pratiqué que lui. Mais sa tendresse n'était pas seulement un effet de son tempérament, car quoique son cœur fût toujours prêt à s'attendrir sur les besoins de ses amis, il ne s'attendrissait pourtant jamais que selon les règles du christianisme que la raison et la foi lui mettaient devant les yeux. C'est pourquoi sa tendresse n'allait point jusqu'à l'attachement et elle était aussi exempte de tout amusement. Il ne pouvait plus aimer personne qu'il aimait ma sœur, et il avait raison. Il la voyait souvent, il lui parlait de toutes choses sans réserve, il recevait d'elle satisfaction sur toutes choses sans exception, car il y avait une si grande correspondance entre leurs sentiments qu'ils convenaient de tout. Et assurément, leur cœur n'était qu'un cœur, et ils trouvaient l'un dans l'autre des consolations qui ne peuvent se comprendre que par ceux qui ont goûté quelque chose de ce même bonheur et qui savent ce que c'est qu'aimer et être aimé, ainsi, avec confiance et sans rien craindre qui divise ou tout satisfasse. Cependant, à la mort de ma sœur, qui précéda la sienne de 10 mois, quand il en reçut la nouvelle, il ne dit autre chose sinon « Dieu nous fasse la grâce de mourir ainsi chrétiennement ». Et dans la suite, il ne nous parlait que des grâces que Dieu avait faites à ma sœur durant sa vie et des circonstances et du temps de sa mort. Et puis, élevant son cœur au ciel où il la croyait bienheureuse, il nous disait avec quelque transport « Bienheureux ceux qui meurent et qui meurent ainsi au Seigneur ». Et lorsqu'il me voyait affligé, car il est vrai que je ressentis fort cette perte, il en avait de la peine et me disait que cela n'était pas bien et qu'il ne fallait pas avoir ces sentiments-là pour la mort des justes et que nous devions au contraire louer Dieu de ce qu'il l'avait récompensé si tôt des petits services qu'elle lui avait rendus. C'est ainsi qu'il faisait voir qu'il aimait sans attache et nous en avions eu encore une preuve dans la mort de mon père pour lequel il avait sans doute tous les sentiments que doit avoir un fils reconnaissant pour un père bien affectionné. Car nous voyons dans la lettre qu'il écrivit sur le sujet de sa mort que si la nature fut touchée, la raison prit bientôt le dessus et que, considérant cet événement dans les lumières de la foi, son âme en fut attendrie, non pas pour pleurer mon père qu'il avait perdu pour la terre, mais pour le regarder en Jésus-Christ, en qui il l'avait gagné pour le ciel. Il distinguait deux sortes de tendresse, l'une sensible, l'autre raisonnable, avouant que la première était de peu d'utilité dans l'usage du monde. Il disait pourtant que le mérite n'y avait point de part et que les honnêtes gens ne doivent estimer que la tendresse raisonnable qu'il faisait ainsi consistait à prendre part à tout ce qui arrive à nos amis en toutes les manières que la raison veut que nous y prenions part, aux dépens de notre bien, de notre commodité, de notre liberté et même de notre vie si c'est un sujet qui le mérite et qu'il le mérite toujours s'il s'agit de le servir pour Dieu qui doit être l'unique fin de toute la tendresse des chrétiens. Un cœur est dur, disait-il, quand il connaît les intérêts du prochain, qu'il résiste à l'obligation qui le presse d'y prendre part, et au contraire un cœur est tendre quand tous les intérêts du prochain entrent en lui facilement, pour ainsi dire par tous les sentiments que la raison veut qu'on ait les uns pour les autres, en semblable rencontre, qui se réjouit quand il faut se réjouir, qui s'afflige quand il faut s'affliger. Mais il ajoutait que la tendresse ne peut être parfaite que lorsque la raison est éclairée de la foi et qu'elle nous fait agir par les règles de la charité. C'est pourquoi il ne mettait pas beaucoup de différence entre la tendresse et la charité, non plus qu'entre la charité et l'amitié. Il concevait seulement que comme l'amitié suppose une liaison plus étroite et cette liaison une application plus particulière qui fait que l'on résiste moins aux besoins de ses amis parce qu'ils sont plutôt connus et que nous en sommes plus facilement persuadés. Voilà comment il concevait la tendresse, et c'est ce qu'elle faisait en lui sans attachement et amusement, parce que la charité, ne pouvant avoir d'autre fin que Dieu, elle ne pouvait s'attacher qu'à lui, ni s'arrêter non plus à rien qui amuse, parce qu'elle sait qu'il n'y a point de temps à perdre, et que Dieu, qui voit et qui juge tout, nous fera rendre compte de tout ce qui sera dans notre vie, qui ne sera pas un nouveau pas pour avancer dans la voie uniquement permise, qui est celle de la perfection. Mais non seulement il n'avait pas d'attache pour les autres, il ne voulait pas non plus que les autres en eussent pour lui. Je ne parle pas de ces attachements criminels et dangereux, car cela est grossier et tout le monde le voit bien, mais je parle des amitiés les plus innocentes et dont l'amusement fait la douceur ordinaire de la société humaine. C'était une des choses sur lesquelles il s'observait le plus régulièrement afin de n'y point donner lieu et d'en empêcher le cours dès qu'il en voyait quelques apparences et comme j'étais fort éloignée de cette perfection et que je croyais que je ne pouvais avoir trop de soin d'un frère comme lui qui faisait le bonheur de la famille, je ne manquais à rien de toutes les applications qu'il fallait pour le servir et lui témoigner en tout ce que je pouvais mon amitié. Enfin, je reconnais que j'y étais attachée et que je me faisais un mérite de m'acquitter de tous les soins que je regardais comme un devoir. Mais il n'en jugeait pas de même, et comme il ne faisait pas, ce me semblait, assez de part extérieurement pour répondre à mes sentiments, je n'étais point contente et allait de temps en temps à ma sœur lui ouvrir mon cœur, et peu s'en fallait que je n'en fasse des plaintes. Ma sœur me remettait le mieux qu'elle pouvait, en me rappelant les occasions où j'avais eu besoin de mon frère, et où il s'était appliqué avec tant de soin et d'une manière si affectionnée que je ne devais avoir nul lieu de douter qu'il ne m'aimât beaucoup. Mais le mystère de cette conduite de réserve à mon égard ne m'a été parfaitement expliqué que le jour de sa mort. Qu'une personne des plus considérables pour la grandeur de son esprit et de sa piété, avec qui il avait eu de grandes communications sur la pratique de la vertu, me dit qu'il lui avait fait toujours comprendre, comme une maxime fondamentale de sa piété, de ne souffrir qu'on l'aimât avec attachement et que c'était une faute sur laquelle on ne s'examinait pas assez, qui avait de grandes suites et qui était d'autant plus à craindre qu'elle nous paraît souvent moins dangereuse. Nous eûmes encore, après sa mort, une preuve que ce principe était bien avant dans son cœur, car afin qu'il lui fût toujours présent, il l'avait mis de sa main sur un petit papier séparé que nous avons trouvé sur lui et que nous avons reconnu qu'il lisait souvent. Voici ce qu'il portait. « Il est injuste que l'on s'attache à moi, quoi qu'on le fasse avec plaisir et volontairement. Je tromperai ceux en qui j'en ferai naître le désir, car je ne suis la fin de personne et je n'ai pas de quoi les satisfaire. Ne suis-je pas prêt de mourir ? Ainsi l'objet de leur attachement mourra. Donc, comme je serais coupable de faire croire une fausseté, quoique je la persuade doucement et qu'en cela on me fît plaisir. De même suis-je coupable si je me fais aimer et si j'attire les gens à moi. Car il faut qu'ils passent leur vie et leurs soins à s'attacher à Dieu et à le chercher. C'est ainsi qu'il s'instruisait lui-même et qu'il pratiquait si bien ses instructions. C'est ainsi que j'avais été trompée en jugeant comme je le faisais de sa manière d'agir à mon égard, car j'attribuais à un défaut d'amitié ce qui était en lui une perfection de sa charité. Mais s'il ne voulait point que les créatures qui sont aujourd'hui et qui ne seront peut-être pas demain et qui d'ailleurs sont si peu capables de se rendre heureuses s'attachassent ainsi les unes aux autres, nous voyons que c'était afin qu'elles s'attachassent uniquement à Dieu, et en effet c'est là l'ordre, et on en peut juger autrement quand on y fait une attention sérieuse et que l'on veut suivre la véritable lumière. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que celui qui était si éclairé et qui avait le cœur si bien ordonné se fût proposé ces règles si justes et qu'il les pratiquât si régulièrement. Ce n'était pas seulement à l'égard de ce premier principe qui est le fondement de la morale chrétienne, mais il avait un si grand zèle pour l'ordre de Dieu dans toutes les autres choses qui en sont les suites, qu'il ne pouvait souffrir qu'elle fût violée en quoi que ce soit. C'est ce qui le rendait si ardent pour le service du roi qu'il résistait à tout le monde dans le temps des troubles de Paris. Il appelait des prétextes toutes les raisons qu'on donnait pour autoriser la rébellion. Il disait qu'un État établi en république comme Venise, c'était un très grand mal de contribuer à y mettre un roi et à opprimer la liberté des peuples à qui Dieu l'avait donnée. Mais que dans un État où la puissance royale est établie, qu'on ne pouvait violer le respect qu'on lui devait sans une espèce de sacrilège, parce que la puissance que Dieu y a attachée étant non seulement une image, mais une participation de la puissance de Dieu, on ne pouvait s'y opposer sans s'opposer manifestement à l'ordre de Dieu. Et de plus, que la guerre civile qui en est une suite étant le plus grand mal que l'on puisse commettre contre la charité du prochain, on ne pouvait assez exagérer la grandeur de cette faute que les premiers chrétiens ne nous avaient pas appris la révolte, mais la patience, quand les princes ne s'acquittaient pas bien de leurs devoirs. Il disait ordinairement qu'il avait un aussi grand éloignement de ce péché que pour assassiner le monde ou voler sur les grands chemins, et qu'enfin il n'y avait rien qui fût plus contraire à son naturel et sur quoi il fût moins tenté, ce qui le porta à refuser des avantages considérables pour ne prendre point de part à ses désordres. Ce sont là les sentiments qu'il avait pour le service du roi. Il était aussi irréconciliable avec tous ceux qui s'y opposaient. Et ce qui fait voir que ce n'était pas par tempérament ni par attachement à son sens, c'est qu'il avait une douceur admirable pour ceux qui l'offensaient en son particulier. En sorte qu'il n'a jamais fait de différence de ceux-là aux autres, et il oubliait si absolument ceux qui ne regardaient que sa personne, qu'on avait peine à l'en faire souvenir. Il fallait pour cela circonstancier les choses. Et comme on l'admirait quelquefois là-dessus, il disait « Ne vous en étonnez pas, ce n'est pas par vertu, c'est par oubli réel, je ne m'en souviens plus. » Et cependant, il avait une mémoire si excellente qu'il n'avait jamais rien oublié des choses qu'il avait voulu retenir. Mais c'était dans la vérité que les offenses qui ne regardaient que sa personne ne faisaient aucune impression sur une grande âme comme la sienne, qui ne pouvait plus être touchée des choses qu'autant qu'elles avaient rapport à l'ordre éminent de la charité, tout le reste étant comme hors de lui et ne le regardant pas. Il est vrai que je n'ai jamais vu une âme plus naturellement supérieure que la sienne à tous les mouvements humains de la corruption naturelle. Et ce n'était pas seulement à l'égard des injures qu'il était ainsi comme insensible, mais il l'était aussi à l'égard de ce qui blesse tous les autres hommes et qui fait leur plus grande passion. Il avait assurément l'âme grande, mais sans ambition, ne désirant d'être grand ni puissant ni honoré dans le monde et regardant même tout cela comme ayant plus de misère que de bonheur. Il ne souhaitait du bien que pour en faire part aux autres, et son plaisir était dans la raison, dans l'ordre, dans la justice et enfin dans tout ce qui était capable de nourrir l'âme, et peu dans les choses sensibles. Il n'était pas sans défaut, mais l'on avait une liberté tout entière de l'en avertir, et il se rendait aux avis de ses amis avec une soumission très grande quand ils étaient justes, et quand ils ne l'étaient pas, il les recevait toujours avec douceur. L'extrême vivacité de son esprit le rendait si impatient qu'il avait peine à le satisfaire. Mais dès aussitôt qu'on l'avertissait ou qu'il s'apercevait lui-même qu'il avait fâché quelqu'un par cette impatience de son esprit, il réparait incontinent sa faute par des traitements si honnêtes qu'il n'a jamais perdu l'amitié de personne par là. L'amour-propre des autres n'était pas incommodé par le sien, et on aurait dit même qu'il n'en avait point, ne parlant jamais de lui, ni de rien par rapport à lui, et on sait qu'il voulait qu'un honnête homme évitât de se nommer, et même de se servir des mots de « je » ou de « moi ». Ce qu'il avait coutume de dire sur ce sujet est que « la piété chrétienne anéantit le « moi » humain » et que la civilité humaine le cache et le supprime. Il concevait cela comme une règle, et c'est justement ce qu'il pratiquait. Il n'était pas non plus incommode à personne sur leurs défauts, mais quand il était engagé de parler des choses, il en parlait toujours sans dissimulation, et comme il ne savait pas ce que c'était que plaire par flatterie, il était incapable aussi de ne pas dire la vérité lorsqu'il était obligé de le faire. Ceux qui ne le connaissaient pas étaient surpris d'abord quand ils l'entendaient parler dans les conversations, parce qu'il semblait toujours qu'il y tenait le dessus avec quelque sorte de domination. Mais c'était le même principe de la vivacité de son esprit qui en était la cause, et on n'était pas longtemps avec lui qu'on ne vit bientôt qu'en cela même, il y avait quelque chose d'aimable et qu'on ne fût à la fin aussi content de sa manière de parler que l'on l'était des choses qu'il disait. Au reste, il avait en horreur toutes sortes de mensonges, et les moindres tromperies lui étaient insupportables. En sorte que, comme le caractère de son esprit était d'être pénétrant et juste, et celui de son cœur d'être droit et sans amusement, celui de ses actions et de sa conduite était la sincérité et la fidélité. Nous avons trouvé un billet de lui, où il s'était peint lui-même sans doute, afin qu'ayant continuellement devant les yeux la voie par où Dieu le conduisait, il ne pût jamais s'en détourner. Voici ce que porte ce billet. « J'aime la pauvreté parce que Jésus-Christ l'a aimée. J'aime les biens parce qu'ils donnent le moyen d'assister les misérables. Je garde fidélité à tout le monde. Je ne rends pas le mal à ceux qui m'en font, mais je leur souhaite une condition pareille à la mienne où l'on ne reçoit pas le bien ni le mal de la plupart des hommes. J'essaie d'être toujours sincère, véritable et fidèle à tous les hommes et j'ai une tendresse de cœur pour ceux à qui Dieu m'a uni plus étroitement. Et quoique je sois forte à la vue des hommes, j'ai en toutes mes actions la vue de Dieu qui les doit juger et à qui je les ai toutes consacrées. Voilà quels sont mes sentiments, et j'en bénis tous les jours mon Rédempteur, qui les a mis en moi, et qui d'un homme plein de faiblesse, de misère, de concupiscence, d'ambition et d'orgueil, a fait un homme exempt de tous ses maux par la force de sa grandeur, à laquelle toute la gloire est due, n'ayant de moi que la misère et l'erreur. » On pourrait sans doute ajouter beaucoup de choses à ce portrait, si on voulait l'achever dans sa dernière perfection. Mais laissant aux autres plus capables que moi d'y mettre les derniers traits qui n'appartiennent qu'au maître, j'ajouterai seulement que cet homme si grand en toutes choses était simple comme un enfant en ce qui regarde la piété. Ceux qui le voyaient d'ordinaire en étaient surpris. Non seulement il n'y avait ni façon ni hypocrisie dans sa manière d'agir, mais comme il savait s'élever dans la pénétration des plus hautes vertus, il savait s'abaisser dans la pratique des plus communes qui édifient la piété. Toute chose étant grande dans son cœur quand elle servait à honorer Dieu. Il les pratiquait comme un enfant. Son principal divertissement, surtout dans les dernières années de sa vie où il ne pouvait plus travailler, était d'aller visiter les églises où il y avait des reliques exposées ou quelques autres solennités, et il était fourni exprès d'un almanach spirituel qui l'instruisait des lieux où se trouvaient toutes les dévotions. Mais cela si dévotement et si simplement que ceux qui le voyaient en étaient surpris, et entre autres une personne très vertueuse et très éclairée s'en expliqua par cette belle parole. Que la grâce de Dieu se fait connaître dans les grands esprits par les petites choses et dans les esprits communs par les grandes. Il avait un amour sensible pour tout l'office, c'est-à-dire les prières du bréviaire, et s'assujettissait à le dire autant qu'il le pouvait, mais surtout les petites heures qui sont composées du psaume 118, dans lequel il trouvait tant de choses admirables qu'il sentait toujours une nouvelle joie à le réciter. Et quand il s'entretenait avec ses amis de la beauté de ce psaume, il en était transporté et enlevait comme lui tous ceux à qui il en parlait. Quand on lui envoyait tous les mois un billet, comme on fait en plusieurs endroits, il le lisait et le recevait avec beaucoup de respect, ne manquant pas tous les jours de lire la sentence. Il en était ainsi de toutes les choses qui avaient rapport à la piété et qui pouvaient l'édifier. Monsieur le curé de Saint-Étienne, qui l'a vu dans sa maladie, admira aussi cette même simplicité. Et il disait à toute heure, « C'est un enfant, il est humble et soumis comme un enfant. » Et à la veille de sa mort, un ecclésiastique qui était un homme de grande science et d'une très grande vertu, étant venu voir et ayant demeuré une heure avec lui, il en sortit si édifié qu'il me dit, « Allez, consolez-vous. Si Dieu l'appelle, vous avez bien sujet de le louer des grâces qu'il lui a faites. Il meurt dans la simplicité d'un enfant. C'est une chose incomparable dans un esprit comme le sien. Je voudrais de tout mon cœur être en sa place. Je ne vois rien de plus beau. » Sa dernière maladie commença par un dégoût étrange qui lui prit 2 mois avant sa mort. Il avait chez lui un bonhomme et toute sa famille, et son ménage qui n'était point destiné pour lui rendre aucun service, mais qu'il gardait comme un dépôt de la providence de Dieu dont il avait grand soin. Un des enfants de ce bonhomme tomba malade de la petite vérole, et il y avait 2 malades dans la maison de mon frère, savoir lui et cet enfant. Il était nécessaire que je fusse auprès de mon frère, et comme il y avait danger que je ne prisse le mauvais air de la petite vérole et que je ne le donnasse à mes enfants, on délibéra de faire sortir cet enfant, mais la charité de mon frère en décida bien autrement, car elle lui fit prendre la résolution de sortir lui-même de la maison et de venir dans la mienne. Il était déjà fort malade, mais il disait qu'il y avait moins de danger pour lui que pour cet enfant à être transporté, et ainsi il fallait que ce fût lui et non pas cet enfant. Et en effet, il se fit transporter chez nous. Cette action de charité avait été précédée par le pardon d'une offense dans une partie très sensible par une personne qui lui avait de grandes obligations. Mon frère s'en acquitta à son ordinaire, non seulement sans le moindre ressentiment, mais avec une douceur accompagnée de toutes les honnêtetés qui sont nécessaires pour gagner une personne. Et ce fut sans doute par une providence de Dieu particulière que dans ces derniers temps où il était si près de paraître devant Dieu, il eut l'occasion de pratiquer ces 2 œuvres de miséricorde qui sont des marques de la prédestination dans l'Évangile, afin que quand il viendrait à mourir, il eût un continent dans ces 2 actions de charité le témoignage que Dieu lui pardonnerait ses fautes et lui donnerait le royaume qu'il lui avait préparé, puisqu'il lui faisait la grâce de pardonner les fautes des autres et de les assister dans le besoin avec tant de facilité. Mais nous allons voir que Dieu l'a préparé à une mort d'un vrai prédestiné par d'autres actions qui ne sont pas d'une moindre consolation. 3 jours après qu'il fut chez nous, il fut attaqué d'une colique très violente qui lui ôtait absolument le sommeil. Mais comme il avait beaucoup de force d'esprit et un grand courage, il ne laissait pas de se lever tous les jours et de prendre lui-même ses remèdes sans vouloir souffrir qu'on lui rendît le moindre service. Les médecins qui le voyaient trouvaient son mal considérable. mais comme ils n'avaient pas la fièvre, ils ne crurent pourtant pas qu'il y eût danger. Mais mon frère, qui ne voulait rien hasarder, dès le quatrième jour de la colique et avant même que d'être arrêté au lit, envoya quérir M. le curé de Saint-Étienne et se confessa, mais ne communia pas encore sitôt. Cependant, M. le curé, le venant voir de temps en temps, selon sa vigilance ordinaire, mon frère ne perdit aucune de ces occasions de se confesser encore de nouveau. Mais il ne nous en disait rien, de peur de nous effrayer. Il fut quelquefois un peu moins mal. Il profita de ce temps-là pour faire son testament, où les pauvres ne furent pas oubliés, et il se fit violence de ne leur pas donner davantage. Il me dit que si M. Perrier eût été à Paris et qu'il y eût consenti, il aurait disposé de tout son bien en faveur des pauvres. Enfin, il n'avait rien dans le cœur et l'esprit que les pauvres, et il me disait quelquefois « D'où vient que je n'ai encore jamais rien fait pour les pauvres, quoique j'ai toujours eu un si grand amour pour eux ?» Et comme je lui répondais « C'est que vous n'avez jamais assez de bien. Je devrais donc leur donner mon temps, disait-il, et ma peine, c'est à quoi j'ai manqué. Et si les médecins disent vrai, et que Dieu permette que je relève de cette maladie, je suis résolu de n'avoir d'autres occupations ni d'autres emplois le reste de mes jours que le service des pauvres. » Ce sont les sentiments dans lesquels Dieu le prit. Sa patience n'était pas moindre que sa charité. Et ceux qui étaient auprès de lui en étaient si édifiés qu'ils disaient tous qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Quand on lui disait quelquefois qu'on le plaignait, il répondait que pour lui il n'avait point de peine de l'état où il se trouvait, qu'il appréhendait même de guérir, et quand on lui en demandait la raison, il disait « C'est que je connais le danger de la santé et les avantages de la maladie. » Et comme nous ne pouvions nous empêcher de le plaindre, surtout dans le fort de ses douleurs, « Ne me plaignez point, disait-il, la maladie est l'état naturel des chrétiens, parce qu'on est par là comme on devrait être toujours, c'est-à-dire dans les souffrances, dans les maux, dans la privation de tous les biens et les plaisirs des sens, exempte de toutes les passions, sans ambition, sans avarice et dans l'attente continuelle de la mort. N'est-ce pas ainsi que les chrétiens doivent passer leur vie ? Et n'est-ce pas un grand bonheur quand on est par nécessité dans un état où on est obligé d'être ? Et en effet, on voyait qu'il aimait cet état, ce que peu de personnes seraient capables de faire. Car on a autre chose à faire que de s'y soumettre humblement et paisiblement. C'est pourquoi il ne nous demandait autre chose que de prier Dieu qu'il lui fît cette grâce. Il est vrai qu'après l'avoir entendu, on ne pouvait plus lui rien dire, et on se sentait au contraire animé du même esprit que lui, de vouloir souffrir et de concevoir que c'était l'état dans lequel devraient être toujours les chrétiens. Il souhaitait ardemment de communier, mais les médecins s'y opposaient toujours parce qu'ils ne le croyaient pas assez malade pour recevoir la communion en viatique, et ils ne trouvaient pas à propos qu'on la fît venir la nuit pour le trouver à jeun sans une plus grande nécessité. Cependant, la colique continuant toujours, ils lui ordonnèrent des eaux et elles le soulagèrent pendant quelques jours, mais au sixième de ces eaux, il sentit un grand étourdissement avec une grande douleur de tête. Encore que les médecins ne s'étonnassent pas de cet accident et qu'ils disent que ce n'était que la vapeur des eaux, il ne laissa pas de se confesser et demanda avec des instances incroyables qu'on le fît communier et qu'au nom de Dieu, on trouva moyen de remédier à tous ces inconvénients qu'on lui avait allégués. Et il pressa tant qu'une personne qui se trouva présente lui dit que cela n'était pas bien, qu'il devait se rendre au sentiment de ses amis, qu'il n'avait presque plus de fièvre et qu'il juge lui-même s'il était juste de faire apporter le Saint-Sacrement à la maison puisqu'il était mieux et s'il n'était pas plus à propos d'attendre à communier à l'église où il y avait espérance qu'il serait bientôt en état d'y aller. Il répondit « On ne sent pas mon mal, on y sera trompé. Ma douleur de tête a quelque chose d'extraordinaire. » Néanmoins, voyant une si grande opposition à son désir, il n'osa plus en parler. Mais il me dit, puisqu'on ne veut pas m'accorder cette grâce, je voudrais y suppléer par quelque bonne œuvre, et ne pouvant pas communier dans le chef, je voudrais bien communier dans les membres, et pour cela j'ai pensé d'avoir séant un pauvre malade à qui on rende les mêmes services qu'à moi. Car j'ai de la peine et de la confusion d'être si bien assisté, pendant qu'une infinité de pauvres qui sont plus mal que moi manquent des choses nécessaires. Qu'on prenne une garde exprès, et qu'enfin il n'y ait aucune différence de lui à moi. Cela diminuera la peine que j'ai de ne manquer de rien, et que je ne suis plus supporté, à moins que l'on ne me donne la consolation de savoir qu'il y a ici un pauvre aussi bien traité que moi. Qu'on aille, je vous prie, en demander un à monsieur le curé. » J'envoyai à monsieur le curé à l'heure même, qui me manda qu'il n'en avait point en état d'être transporté, mais qu'il lui donnerait aussitôt qu'il serait guéri un moyen d'exercer sa charité en le chargeant d'un vieil homme dont il prendrait le soin le reste de ses jours, car monsieur le curé ne doutait point qu'il ne dût guérir. Comme il vit qu'il ne pouvait avoir un pauvre dans sa maison avec lui, il me pria que l'on le transportât aux incurables, parce qu'il avait un grand désir de mourir en la compagnie des pauvres. Je lui dis que les médecins ne trouveraient pas à propos de le transporter en l'état où il était. Cette réponse l'affligea sensiblement, et il me fit promettre du moins que s'il avait un peu de relâche, je lui donnerais cette satisfaction. Mais je ne fus pas dans cette peine, car sa douleur augmenta si considérablement que dans le fort de la douleur, il me pria de faire une consultation, mais entrant en même temps en scrupule. « Je crains, me dit-il, qu'il n'y ait trop de recherche dans cette demande. » Je ne laissai pourtant pas de la faire. Les médecins lui ordonnèrent de boire du petit lait, assurant toujours qu'il n'y avait nul danger et que ce n'était que la migraine mêlée avec la vapeur des eaux. Néanmoins, quoi qu'il puisse dire, il ne les crut jamais. Il me pria d'avoir un ecclésiastique pour passer la nuit avec lui et moi-même. Je le trouvais si mal que je donnai ordre, pour sans rien dire, de préparer des cierges et tout ce qu'il fallait préparer pour le faire communier le lendemain au matin. Ces apprêts ne furent pas inutiles, mais ils servirent plus tôt que nous n'avions pensé, car environ minuit, il lui prit une convulsion si violente que quand elle fut passée, nous crûmes qu'il était mort. Et nous avions cet extrême déplaisir, avec tous les autres, de le voir mourir sans communier, après avoir demandé si souvent cette grâce et avec tant d'insistance. Mais Dieu, qui voulait récompenser un désir si fervent et si juste, suspendit comme par miracle cette convulsion et lui rendit le jugement entier comme dans sa parfaite santé. En sorte que monsieur le curé, entrant en sa chambre avec notre Seigneur et lui ayant crié « Voici celui que vous avez tant désiré que je vous apporte !» ces paroles achevèrent de l'éveiller et monsieur le curé approcha pour lui donner la communion. Il fit un effort et se leva seul à moitié pour la recevoir avec plus de respect. Et monsieur le curé l'ayant interrogé, selon la coutume, sur les principaux mystères de la foi, il répondit dévotement à tout. « Oui, monsieur, je crois tout cela et de tout mon cœur. » Et ensuite, il reçut le saint viatique et l'extrême onction avec des sentiments si tendres qu'il en venait des larmes. Il répondit à tout et remercia même à la fin monsieur le curé. Et lorsqu'il le bénit avec le Saint-Sacrement, il dit « Que Dieu ne m'abandonne jamais !» qui furent comme ses dernières paroles. Car, après avoir fait son action de grâce, un moment après les convulsions le reprirent, qui ne le quittèrent plus et ne lui laissèrent plus un instant de liberté d'esprit. Elles durèrent jusqu'à sa mort, qui fut 24 heures après, savoir le 19e d'août 1662, à 1h du matin, âgé de 39 ans et 2 mois. Monsieur le curé de Saint-Étienne le recommanda le dimanche suivant à son prône aux prières des assistants, et il en fit un éloge qui marquait l'estime qu'il faisait de sa piété et combien il regrettait la perte que l'on avait faite à sa mort. Il en parla de la même manière à feu monsieur l'archevêque de Paris, qui lui en demanda des nouvelles, ayant su qu'il l'avait assisté à sa mort. Et quoique ce qu'il lui rapporta dans la même occasion d'une conversation qu'il avait eue avec M. Pascal dans sa maladie ait donné lieu à quelques personnes qui auraient voulu, s'ils avaient pu, noircir sa mémoire et sa réputation, de faire courir le bruit qu'il avait fait, avant que de mourir, une rétractation entre les mains de M. le curé de Saint-Étienne. Néanmoins, il y a peu de gens à présent qui ne soient entièrement désabusés de cette calomnie, dont M. le curé de Saint-Étienne lui-même, qui est encore vivant et qui est présentement abbé de Sainte-Geneviève et général de cet ordre, pourra détromper tous ceux qui ne le seraient pas encore suffisamment et qui lui en voudront demander l'éclaircissement. Il s'en est déjà assez expliqué par avance dans plusieurs lettres qu'il nous a fait l'honneur de nous écrire sur ce sujet et que nous avons en nos mains, par lesquelles il déclare qu'il n'a jamais dit de bouche ni par écrit à qui que ce soit que M. Pascal se fût rétracté, comme en effet cela était très faux. Et il demeure même d'accord qu'il avait pris dans un sens contraire ce que M. Pascal lui avait dit dans cet entretien, duquel il avait fait rapport à M. l'archevêque et qui avait donné sujet à ce faux bruit, quoique néanmoins il ne contienne rien de cela. J'ai cru qu'il était nécessaire de faire connaître la fausseté et de justifier la mémoire d'une personne qui n'a jamais eu des sentiments qui ne fussent très catholiques et dont il ait eu besoin de se rétracter, qui a toujours eu un fort grand respect et une très parfaite soumission pour toutes les vérités de la foi, et dont l'entière application et l'unique travail pendant les 5 ou 6 dernières années de sa vie a été de combattre les ennemis de la religion et de la morale chrétienne.